Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici à nouveau ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. À 11h tapante, Charles Ettore Graziali Desorteil a marié Azeline May Raquin devant le bon Dieu. Il lui a promis de lui faire une bonne vie, de subvenir à ses besoins, de fonder une grande famille et capitaine voyage en flague. Il lui a passé l'alliance consacrant leur union. L'affaire escamotée rondement avait eu lieu autour d'une messe célébrée au pas de charge dans une petite chapelle espagnole retrouvée depuis peu au fond de la brousse. Longtemps, les herbes, les fordoches, les lianages avaient dissimulé la bâtisse sous une tache verte. Jusqu'à 5 ou 6 ans passés, elle croulait à demi, bousculée par la poussée d'une légion d'arbres. Dans son avancement progressif, le genou d'un cyprès s'était même chargé de capoter le bois vermoulu de ses basses portes. Après, dans sa brutalité naturelle, le feuillu ne s'était pas contenté de rester sur le seuil. Il avait planté ses grands doigts et ses racines dans l'autel. La hache du bûcheron Ambroise Rougaud avait sauvé le tabernacle in extremis. Il avait fait un tas avec la drigaille épaillée tout autour sur les dalles du chœur. Et après bien nettoyer la place, le taillis débroussaillé, Ambroise et ses 3 garçons avaient remplacé par des neufs les bardeaux ou mérins pourris ou fendus. Ils avaient rendu sa charpente et son toit couverts en tuiles de bois à la petite maison du bon Dieu. Ça se fait aujourd'hui, on pouvait se marier à l'aise. La cloche égrenait sa musique ordinaire, c'était plus les oiseaux qui sifflaient le sacerdoce. Tout de même, l'église était vraiment blottie dans un coin reculé. Et la messe du curé Lefort, il fallait se relever dès qu'on s'était agenouillé, ressemblait à d'une course. Son latin filait un train d'enfer.
« Silence, les femmes !»
C'était la volonté du père de la fiancée qu'il en fût pratiqué ainsi. Pope Raquin souhaitait une cérémonie à toute vitesse. Ma foi, il avait la réputation d'un homme qui tenait beaucoup à la paix. Personne autour d'ici pour y faire objection. Et puis aussi, il se cancanait dans les rangs des personnes que si le vieux avait la tête rouge, c'était pour faciliter les affaires de son gendre italien. Elle l'appelait vers la ville. C'était beaucoup d'argent à gagner. Le marié, justement, d'après les rapports du vaillant monde qui l'avait approché, était un grand bel homme, pas très charrant, avec des cheveux à reflets corbeaux comme on n'en voyait guère par la paroisse. À propos de son apparence, quelques femmes d'expérience hochaient la tête sous leur garde-soleil et faisaient une bouche prudente comme lorsqu'il est fait mention d'une chose doutable. Ou bien elles adoptaient un petit sourire en coin. Chacune avait son idée. Peut-être bien sûrement qu'un glissage des corps avait pu avoir lieu avant le mariage. Et les tout derniers avis étaient que les tourteaux s'étaient déboutonnés une fois de trop en arrière d'une talle d'écorce. Joséphine fut ziliée, la fouine à Argomège, dont le ventre était en cailloutis et qui crevait de jalousie dès qu'il était question d'enfanter, avait carrément franchi un cran dans le mal faire. Elle avait forgé une petite chanson qui emboîtait sa rime avec le mot « tête », un couplet qui disait « La fille a fait erreur dans ses calculs, pauvre petite bête ». Trois malicieux ont pris à rire. Les autres haussaient les épaules. Une telle éventualité n'était pas faite pour décourager l'assemblée. L'insinuation de Joséphine, ça partait dans la mer. Après tout, attraper un enfant par le bas du ventre n'était pas le plus triste de l'histoire humaine. Le futur serait témoin. Peu à peu, Aedius lâchait ses nerfs raides. Les choses se mettaient en place telles qu'il les avait imaginées. En pleine église, alors que sa fille Azeline venait de prononcer le « oui » qui la faisait entrer avec son cher mari dans le pays commun des nuits calmes et tièdes, dans l'habitude conjugale des journées chaudes et doucementes, le vieux bougre avait tourné son visage avec ferveur vers la hauteur de la nef. Il fixait une majestueuse coulée de soleil. Soudain allumée, elle flambait neuf derrière le vitrail. Aedius reconnut ce signe radieux comme une bénédiction du vieux d'en haut. Sur ses genoux, en silence, pendant le reste de la cérémonie, il garda la main de Basel bien enfermée dans la sienne. L'âme et la persévérance les tenaient unis en un grand calme intérieur. Et le bon temps roulait. Popraquin était joyeux et débonnaire. Il avait mis toutes ses dents dans sa bouche. Sourissez et tout le monde vous aime. Il s'est tourné vers son ami Benny MacLeish. Il lui a donné un coup de tape sur l'épaule. Il a dit avec un sourire contagieux, « Benny, voilà bientôt le temps de sortir ta boîte d'air et de nous donner avec ta manière une jolie valse triste. » Benny était un grand accordéoniste. Il était né dans une cabane à Bayou-la-Lumière. Il avait lise sa terre pour apprendre les notes du solfège. Il était si very well down qu'il jouait les balles ici et là-bas autour de la Louisiane. C'était un artiste naturel. Ça veut dire qu'il se tuait à faire partout sa même musique cajun. L'accordéon faisait chanter et danser. Composer une mélodie forte et éclatante était une affaire qui mangeait sa santé. À force de jamais s'élever toute la nuit de son banc ou de sa chaise, Benny MacLeish se fabriquait du lard. C'était un homme trop nourri, un mataupin. Il pesait bien 240 livres. Il soupirait parfois avec un grand sérieux « Je veux faire ma musique malgré que ça va me tuer ». Personne n'entendait ses lamentations. Et dans les halls de danse, il osait pas faire une intermission, dire au balleur « Je sens que je me rends en graisse, je vais dehors me dégourdir les jambes. » Ainsi était Benny MacLeish. Il se faisait mourir au plaisir. Chaque fois, le conte d'une vie est une farce. Dans la cour de l'habitation, Raquin s'était dressé une table immense. Elle était constituée de planches posées sur des tréteaux. Une buvette s'était formée autour de son long chemin de nappe. Une buvette où vous alliez trouver des blancs, des chauvages, des nègres et toute qualité de peau moitié-moitié. Autour de la magnane et du whisky, ça faisait pas la différence. Un Crump, un Robichaud, un Vagpack, un Ortego, valait un Israël, un Landrenette, un Maggi, catholique ou baptiste, bavarois ou loudunais, de Poitou, les gens, ceux qui étaient là, étaient juste un peu que des cadjins. Pour s'égrandir au-dessus de la foule des bervaucheurs, Aedius s'était monté sur une chaise. À la main, il tenait son verre de vin. Il a bu un filet. Encore un autre filet. Il se sentait un peu tiac, la terre tournait sous les pieds des évités. Le vieux bougre s'est éclairci. Il a dit « En attendant que le gros Benny aille quérir son accordéon,
ce qui risque d'être assez long, vu que je lui ai caché son instrument dans le rebord du puits, j'aimerais à tous respect que je dois aux dames faire taire les ragots qui peuvent courir sur la pureté de ma petite Azeline. »
Il a toisé du côté des commères.
Il savait all right d'où venait la médisance. Son regard fouillant s'a posé sur le nez de Joséphine.
À ce moment-là, la mule à argomètre fusilié comptait pas pour du beurre. Popraquin a ôté son chapeau du dimanche, s'a découvert devant elle « Bonjour madame, fameuse langue de vipère ».
En agissant de la sorte, ce coquin d'Edius savait ça lui prendrait pas longtemps avant que tous rient avec lui.
Il a gazouillé joliment. « Si mon petit Zéphyr, mon joli gazon, ma petite fleurette se marie aujourd'hui, c'est pas parce qu'elle est embêtée, madame. Ou alors c'est récent, à peine sec. »
Azeline était devenue rouge comme une crête. Elle s'est réfugiée dans les bras de son nouveau mari.
Ça se fait, le grand matou italien a montré son poing à Edius. Pas étonnant si un dégot pas habitué au répertoire des petits tours de la paroisse trouvait le vieux partait trop dans ses niches enrageantes et même mortifiantes.
Pour se rattraper, manière mettre les rières encore plus entre gilet et peau, Edius a commencé à raconter un de ces petits contes creux dont les cadjins sont friands pour toute occasion. Une histoire simple qu'il avait entendue dans la chope chez Starbrand.
Ça disait dans son langage.
Il y avait un bon à rien qu'on appelait Toutou. Un jour, il était pris de boisson. Un étranger a discuté avec lui. Je suis tracassé, il a dit. Ma mère est en famille.
Et le bougre a dit.
Mais c'est beau ça, et pourquoi t'es tracassé? Il y a que mon pape est mort il y a 2 ans passés, et mam est proche de 80 ans.
À l'écoute de la plaisanterie, tout le vaillant monde amassé autour de la chaise s'était secoué de rire. Une vague qui cagnait jusqu'aux enfants occupés à déchirer à belles dents un cuisseau de poule caille sous la table. Pendant qu'il rebuvait un filet, Edius Raquin a laissé à Ambroise Rougeau sa liberté de raconter quelques niches de sa façon.
Une comme celle de ce galop qu'avait introduit 60 poules dans une demeure dont les occupants étaient absentés pour la journée. L'autre, celle d'un pauvre noir, où l'on avait démonté sa charrette et remonté pièce par pièce dans sa maison.
Puis quand il a jugé que c'était enough, Popraquin a élevé les bras au-dessus de la cajouette pour faire taire les bavards.
Hum.
Encore une fois, il s'est éclairci. Un grand silence s'a creusé par politesse et respect du vieux. Popraquin a dit, avec une voix étranglée d'émotion,
« Merci beaucoup à Monsieur Argomède Fusillé, à toi, Narcisse Maggi, à Monsieur Vagpasque, parti à cette heure se reposer sous un arbre, à tous ceux qui sont là, et pareil, avec toi, Jody McBrown, Théodore Robichaud, et avec toi également, Cyprien Lamusée. Mes amis, je dois vous dire la franche vérité, merci d'être de la partie, parce que vous autres, c'est notre monde. On est content de vous avoir ici. »
Allons à la foyer, c'est pour changer ton nom. On va t'appeler madame, madame canaille comme moi. Qui fit des trop mignon pour faire la criminelle. On va t'y me faire tout ça, oh oui, merci à moi. Thank you.
monde parle mal de toi, tu danses le crocolé. Pourquoi tu me fais tout ça? C'est juste pour me faire fâcher. Allons à la paillette, t'en vas chanter ton nom. On va t'appeler madame, madame canaille comme moi.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Un grand pas vers le bon Dieu, Jean Vautrin. Et puis, Edius Raquin a contemplé son auditoire avec un transport d'humeur où se mêlaient la vacuité du soulard et les vieilles manières de vivre. Après saluer son auditoire avec une grâce de dignitaire et rétabli son équilibre un peu précaire à une si haute altitude, il a repris la parole comme ceci. En dernier mot, pour compléter un discours que n'importe qui pourrait comprendre tout le long de la grande rivière Illinois jusqu'à la Nouvelle-Orléans, je suis fier de pouvoir dire que si vous aimez le boudin chaud, mangez-en. C'est un fameux jour pour ça, mon gendre et ma fille vous accueillent. Et si vous aimez la bière, elle ne manque pas non plus. Après une telle annonce qui lui valut l'encouragement de plusieurs hurrahs et un long crépitement des mains, Edius sortit de sa poche un écrin pas trop gros. Il en ouvrit le couvercle en velours avec cérémonie pendant que les figures se tournaient attentives vers ses gestes. Edius a murmuré avec religion. « La musique, mes amis, c'est la voix de l'âme. La musique à bouche, principalement. » Le harmonica. Et puis, 1, 2, 1, 2, 3, profitant que le gros Benny McLeish avait toujours les mains occupées à chercher sa boîte d'accordéon, le vieux bougre a donné le beat avec ce tapage du pied qui est si nécessaire aux musiciens pour garder leur temps. Ça fait, il a lancé une valse à 50 sous. La Colinda, elle se nomme. Bâtard sauvage ou cadjin adopté, il cite... Tout le monde connaît ses paroles comme elle va. Allons danser, Colinda, danser, coller, Colinda, pour fâcher les vieilles femmes. Ça se fait, les balleurs se sont précipités aussitôt sur les filles, les épouses. Ça se fait à commencer à prendre un sacré bal de maison. Juste accompagné par le frottement des cuillères, le son de la musique de bouche des dieux Raquin avait une couleur de vérité unique. Mélancolique et charmante à l'oreille. Sur la terre buvante, le soleil avait dressé ses picots. D'un coup, il mordait, like hell. Pour Azeline, transportée tout en blanc dans les bras puissants de ferraille, était venu le temps des mots doux, et ses doigts follaient dans la nuque de son époux. Avec la lumière, avec l'ombre, ses yeux tournés en ferveur, éblouis par l'amour et brouillés par le vin un peu, cherchaient les siens. Elle murmurait « Je te souhaite du bon temps, farouche, et que t'as un tas de bonheur, mon époux. J'ai mis des jolis draps qui sont bons, bien propres. » Farouche, beaucoup concentré sur la danse, ostinait à garder une façon bien tournante et appliquée de poser ses pieds en mesure sur le parquet. Le corps en perdition, parfois, il allongeait son pas malgré lui. Azeline se moquait de son écart avec une feinte violence dans la voix. Elle disait en approchant son bec de son oreille « Sûrement pas, monsieur Crowley, sûrement pas ». Elle tempérait son courroux d'une lueur caressante au fond des prunelles. Elle reprenait son cavalier en main. Elle lui bridait fermement la nuque. Elle imprimait le rythme. Elle commandait en sourdine « 1, 2, 3, 1, 2, 3, la valse, monsieur l'Italien, pas la cavalerie ». Vitement, sans chercher à se dégager de cette étreinte qui lui fabriquait une joie rayonnante, il se détournait vers elle, la poitrine battante. « Je demande apologie, miss, madame, » le corrigeait-elle. Un instant, il giguait les yeux clos. Elle l'enfermait dans mille tours et remous de sa robe. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il sentait le parfum de son corps en sueur, comme la tiédeur d'un lit. Un animal furieux vivait en lui. C'était donc cela, le bonheur. Soudain, il rouvrait les paupières. Il disait, avec des précautions défensives au coin de la bouche, « Ma parfaite, sans toi, où aurais-je appris la sagesse ?» La sagesse, farouche, interrogeait la Caillette. Écervelée, moqueuse, son catogan à demi défait, elle se renversait en arrière. Toute pareille à un piège, elle se cambrait, lèvres entr'ouvertes. Elle exhalait un souffle délicieux, ou bien prise d'une suffocante tendresse, elle logeait étroitement ses hanches rebondies, tout contre les siennes, demandait avec envie un rien canaille aussi. M'aimerais-tu si j'étais flétrie et sèche ? Il baissait sur elle ses yeux d'ardoise attisés d'une flamme rapide, sans essuyer ses lèvres où se mêlait l'odeur âcre de sa transpiration et le halètement de son souffle. Il l'embrassait, il disait « Tu peux déprendre sur moi, petite criminelle, je vais fabriquer un beau petit. » Le grand bandit roidissait sous la poussée frémissante du ventre de son aimé. Son affaire était droite en l'air. Et pour les filles autour des amoureux, c'est la Maggie à alcer la bauve. N'importe si les garçons la branche descendaient d'un Allemand nommé Zweig, n'importe si Jody McBrown était issue d'Indiens Atakapa, elles enroulaient la valse tout pareil. Les mots étaient beaux, remplis de vitalité, les chansons envoyaient des messages de paix. Même Basel était au bal, une des premières sur le plancher. Si personne n'était disponible, elle dansait toute seule. Elle se suffisait. Et le bon temps roulait. Le bal de maison avait encore grossi. Les farces étaient belles et la musique excitante. Les couples de danseurs touchaient le cœur du plaisir et de la joie. Même les vieux s'amusaient. Cloués assis par la misère de l'âge, embranchés malgré eux sur l'autour du parquet, ils avaient gardé cette fière habitude de turluter les airs connus avec la bouche. Par le petit bout de la bretelle, le gros Benny McLeish avait fini par récupérer son bien chromatique, pas loin du fond de la citerne. Pour rattraper son absence, il faisait le clown ou paillasse avec sa boîte à air. Il haranguait la foule des danseurs, baglait, en apprêtant ses trilles, ses mains rondes sur les touches étaient courantes comme de l'eau. « Tiens !» il annonçait. « M'en va jouer une valse pour le gang de Bayoun et Piqué. À moins que vous préfériez, je commence par les filles à Binglaise qui boit comme des trous et roule comme baril. » Les uns les autres lui répondaient par leurs préférences toutes sortes de titres de chansons. « La bataille à coups de chapeau ! Non ! Le two-step de Lafayette, saut de crapaud, grande prairie, Madame Young, cher Bayol. » Ça se fait pour les mettre d'accord. Gros McLeish entamait la valse de Gédan. À ses côtés d'accordéoniste figurait un joueur de violon. Alfred Immel était son vrai nom. Sur la place de Bayoun et Piqué, tout le bon monde l'avait surnommé Bois sec, en l'honneur de sa crasse. C'était un homme pas méchant. Il reconnaissait volontiers qu'il appréciait pas trop de se tremper dans le savon. En réalité, peut-être qu'il était affublé de ce sobriquet parce qu'à 68 ans, il continuait à ressembler à une vilaine badine de repousse sur un rosier. Il était mince et élingué. Ses cheveux étaient épais, buissonneux, couleur aussi pruneau que ceux du récent mari italien de la fille des dieux Sraquins. Mais alors, bien mal assaisonné d'odeur, mal Dieu, mais qu'il puyait, Alfred Immel ! Pourtant, sa musique était traditionnelle, et sa manière de jouer méchant distinguée. Pour exemple, c'était un de ces musiciens capables de vous parler pendant des heures de la volute, du coup, du cordier, de la touche ou du chevalet de son violon avec une fameuse érudition. Quand il rencontrait des personnes assez curieuses du mystère de la lutherie pour lui poser plus avant des questions, Imel Boissec montait sur une estrade. Il adressait son speech en français, des fois en anglais. Tout partout où il allait, il finissait son message de la même façon. Il disait « Je considère que l'oration savante que je viens d'avoir l'honneur de vous présenter est sans objet s'il n'est pas répété avec force et croyance qu'un violon, ça n'a pas de son quand ça n'a point d'âme. » En d'autres mots, même si vous me voyez avec la langue sale, barbeux et salaud comme je suis, j'ai une conviction profonde et respectable. Il faut la partager. L'âme, messieurs, dames, c'est le réel de nos ancêtres. » À la manière d'un ciboire pour la messe, il levait alors au-dessus de sa tête hirsute son petit instrument en bois d'érable pour le faire adorer. Accompagné par l'archet, il le faisait joliment voyager dans les airs avec un infini respect. Et après, chose qui ne manquait jamais d'arriver, c'était aux gens d'applaudir. Même M. Argomène Fusillé, qui se clamait premier esprit libre de la paroisse et fervent liseur de livres, avait coutume de reconnaître que Boissec était induqué musical. Macliche, en parlant pas, était respectueux de son savoir, conscient que pour lui l'avenir était pas seulement tricoter des valses pas chères, des gigues qui cassent la gueule à 20 pas, ça, et lâcher sur les notes des grands cris amers comme veut la musique traditionnelle des Cadjins. Comme résultat de cet engazonnement de deux herbes distinctes, Béni et Boissec étaient une sacrée paire d'amis. Avec Basile, un fils Labranche désigné pour battre au triangle ou petit fer, ces trois-là faisaient une triplette malaisée à battre. Après l'excès de mangeaille, l'abus des piments enragés liés à la sauce piquante et bien boire par là-dessus, le ton de la voix des noceurs s'était beaucoup élevé, rendu nettement plus aigu dans l'éclat des rires. L'estomac des convives était full up avec le gombo filet cuit à petit feu dans son jus. Plusieurs sortes de gombo. Gombo poule et gombo herbe. Gombo chevrette et toute qualité de volaille. Gombo bien salé, poivré, pimenté, bien saupoudré avec les feuilles de sassafras desséchées et pulvarisées. Oh, timonde, le bon temps aussi peut tuer. À force de chambranler, les plus pintocheurs dodelinaient de la tête, étaient en grande gueule sans raison, une bouteille dans la poche par peur de manquer. Ils suivaient les murs, les piquaient à tâtons, la cravate était défaite, le gilet mouillé de partout, c'était chagrinant à voir. Et Dieu s'était fâché contre ceux-là qui savaient pas se tenir. C'était comme si on avait trompé sa confiance. Ils galopaient de l'un à l'autre. « Toi, oh, Clump, et toi, Maiji, fils de putain, vous êtes juste de la ripopette de gueux !» Les convives moquaient après lui. Ils avaient plus toute leur tête, l'équilibre non plus. Argomène Fusillé, d'habitude si convenable, rendait son riz, 6 gousses d'ail hachées et 1 pinte d'eau sur ses chaussures. Plus loin, à l'écart d'une étable, comme la vache et l'ours lient amitié, Homérine, l'épouse de Cyprien Lamusé, avait fourché sa langue dans la bouche du poilu fils à Robichaud. Ailleurs, comme le lion mange la paille du bœuf, c'était Monsieur Vague Pasque, fourgaillant sous les jupons à Jasoline Bi. La négrette, Edus avait déjà étudié le cas, faisait des blancs d'œil à la lune pendant que le bonhomme fricotait, s'affairait sur elle en respirant de plus en plus fort. Elle tenait la montre en or du commerçant dans sa menotte, tic-tac, tic-tac. Le temps filait entre ses doigts, et lui, tu crois? C'est de l'air qu'elle avait sur le ventre, il la pillait de tout son poids avec sa main qui gratte, avec sa main large, il reste aussi. C'était trop voir ou trop entendre pour Poc Raquin. Le vieux habitaco allait de tremblaziment en grande surprise. Voilà donc pour ce soir donc la suite de ce roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Nous retrouverons la suite demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.